France Inter. Le 7-9.
Il est 7h50. Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le président du Cercle des économistes. Il organise le week-end prochain les rencontres économiques d'Aix.
Bonjour Jean-Hervé Lorenzi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Protectionnisme, montée des populismes un peu partout, Union européenne en panne. La situation actuelle du monde vous rappelle-t-elle d'autres époques historiques, par exemple l'année 1914 ou les années 30?
Oui, les périodes très particulières qui ont, au fond se développent peut-être tous les demi-siècles. Ce sont des périodes dans lesquelles toute forme de dialogue est devenue impossible. Vous voyez bien que dans tous les sujets, on a encore vu sur les migrants en Europe, la difficulté de trouver un accord, donc de se parler. Ce sont des périodes qui sont extrêmement dangereuses parce que, en réalité, selon une très jolie expression d'un livre qui s'appelait Les Somnambules, on voit que tout le monde est conscient du fait qu'on va dans le mur, mais en réalité, il n'y a plus de moyens d'éviter les difficultés. Alors, j'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Et donc, on va vers, au fond, des situations qui sont des situations extrêmement difficiles, extrêmement dangereuses, sans même pouvoir ni les discuter, ni même essayer de trouver de nouveaux compromis, de nouvelles formules. C'est le cas aujourd'hui.
Les Somnambules, le livre dont vous parlez, qui a été un best-seller il y a quelques années, raconte justement l'année 1914. Il dit, on allait dans le mur et personne ne pouvait arrêter les choses.
Peut-être que trois
semaines. On était des somnambules. Est-ce qu'on l'est aujourd'hui?
Trois semaines avant la déclaration de guerre, en réalité, à part peut-être François Joseph, personne ne souhaitait plus la guerre. Donc c'est juste une espèce d'engrenage terrifiant parce que les gens ne se parlent plus. Le fond du sujet aujourd'hui, c'est toutes les formes de dialogue traditionnelles, celles que nous avons eues, le G7, on a vu cette plaisanterie du G7 l'autre jour, l'OMC qui est remis en cause, l'ensemble de tout ce que sont nos formes de dialogue ont été construites à partir de la chute du mur de Berlin, l'idée que on allait globaliser et qu'on allait en réalité avoir une gouvernance mondiale. Tout ça est en train de disparaître. Et lorsque les formes de dialogue disparaissent, on rentre dans des zones extraordinairement difficiles.
Vous diriez qu'on est des somnambules aujourd'hui ?
Je dirais que nous sommes. Je trouve que l'expression somnambule est bonne parce que on n'est pas tout à fait éveillé, pas tout à fait endormi. Donc on n'est pas tout à fait dans la situation. On ne peut pas réagir, mais on est quand même en réalité dans une espèce de logique, qui est une logique difficile, très difficile.
Et quand vous voyez cet état du monde, ce constat que vous faites avec la mort d'une certaine manière du multilatéralisme, est-ce que vous ne vous dites pas, vous Jean-Hervé Lorenzi et d'autres économistes, est-ce que vous vous dites pas on s'est trompé en prenant la mondialisation heureuse, le libéralisme comme horizon absolu? Au fond, ça a créé des inégalités, des fractures qui ont fait prospérer les populismes. On en est là, c'est un peu de notre faute.
Oui. Enfin, c'est pas la faute des économistes, c'est leur faute d'interprétation.
Non, la faute de la doxa généralisée qui a été terrorisée après la chute de la mur de Berlin.
Je voudrais terminer ami avec mes camarades économistes. Mais la réalité, c'est que beaucoup de sujets sont arrivés et s'entrepénètrent. C'est évidemment le problème des migrations, c'est évidemment le problème du climat, c'est évidemment le problème de la technologie qui est d'une certaine manière aujourd'hui terrifiante dans la mesure où les gens ont peur pour leur emploi et surtout les classes moyennes ont le sentiment que lorsque la technologie se développe, elle crée à la fois des emplois très qualifiés et puis des emplois qui sont des emplois de services non qualifiés. Donc il y a une sorte de rupture de marché du travail qui est une rupture, j'allais dire, porteuse de tensions, porteuse de difficultés. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle le populisme, le nationalisme, tout ce qui permet aux gens de retrouver des racines ou des références au moment où ils ont le sentiment que le monde les écarte de la modernité.
Alors à ce moment-là, c'est quoi la priorité? Est-ce que c'est de réformer, de libéraliser, comme le fait Emmanuel Macron notamment, ou est-ce que c'est de protéger?
Les deux. On voit bien qu'une société comme la société française, alors si on revient sur la France, était quand même depuis une trentaine d'années, peut-être du fait de ma génération, j'allais dire gelée dans un dispositif qui permettait à ce qu'on appelle les insiders, ceux qui étaient à l'intérieur du dispositif, de protéger leurs avantages ou leur mode de vie. Et sur ce point-là, la manière dont Emmanuel Macron a joué, y compris en redonnant confiance à l'extérieur, est positive. Et puis il y a cette idée que les nouveaux inquiets, ceux qui pensent que le monde ne leur est pas réservé, le monde qui vient, doivent être protégés. Et ça, c'est le volet, disons, de la politique économique qu'il faut vraiment prendre en compte et qui ne l'est pas assez aujourd'hui.
Oui, alors il y a beaucoup d'économistes, dont des fervents partisans d'Emmanuel Macron, comme Jean Pisani-Ferry, comme Thierry Pech, comme Philippe Aghion, qui vont plus loin que vous, qui disent clairement qu'ils regrettent l'absence d'une ambition sociale pour la France, en disant Macron a libéré, c'est très bien, mais il n'a pas assez protégé.
Alors, je trouve que c'est un peu rapide pour jouer, parce que en réalité, ça fait, si je ne me trompe pas, à peine 13 mois qu'on a changé de président de la République.
Globalement, vous trouvez qu'il critique trop rapidement, oui, trop facilement, c'est ça?
Oui, les critiques reviennent rapidement, mais sur le fond, il est clair que dans les mois qui viennent, il faudra infléchir une partie de la politique, politique d'offre et politique de demande, c'est-à-dire politique de pouvoir d'achat, en réalité, et protection d'un certain nombre de catégories qui sont très touchées, non seulement en France, mais partout dans le monde. C'est ça qu'on va essayer de montrer à Aix. C'est cette idée que le cas français n'est pas un cas unique, loin de là. Et puis, il faudra vraisemblablement essayer de redonner un peu de plus de croissance, parce que on ne fait pas de réforme dans un pays si on n'a pas un peu de vent dans les voiles. On prend toujours l'exemple de la Suède et du Canada. Là, on est en train de ralentir et je trouve que c'est ce qui me pose le plus de problèmes, plus peut-être que celui de mes camarades. C'est si on ralentit...
La croissance.
Un peu de croissance et un peu, surtout création d'emploi. Le juge de paix, c'est la création d'emplois. L'année dernière, on a créé 300 000 emplois nets. Cette année, 200 000. Il ne faudrait pas que ça continue à diminuer.
Ouais, mais justement, les inquiétudes autour de la croissance, on rappelle que 2017 a été une année plutôt exceptionnelle sur le front de la croissance, et que là, toutes les prévisions, dont celles de l'INSEE, sont revues à la baisse pour cette année et pour l'année prochaine. Est-ce que vous craignez qu'au fond, cette politique d'Emmanuel Macron, elle est liée à la croissance? C'est-à-dire que, est-ce que vous craignez qu'avec un ralentissement de la croissance, les effets de la politique de Macron se fassent attendre?
Toutes les politiques de réforme sont liées à la, j'allais dire, au développement du marché de l'emploi, pour dire les choses comme elles sont. Je préfère parler de l'emploi que de la croissance. Et il se trouve que la croissance française est plus riche en emplois aujourd'hui qu'elle ne l'était précédemment. 300 000 emplois l'année dernière, c'est fait sur une croissance qui n'est quand même pas géante. Et il y a 15 ans, ça aurait été impossible. Il faut donc...
2,3.
Voilà. 2,3. Il faut absolument maintenir cette espèce de développement du marché du travail, créer des emplois, tout simplement parce que sinon, les gens ont le sentiment que les résultats ne sont pas là. Et évidemment, les tensions se remontent. Ceci n'est pas un problème spécifiquement français. Le monde entier est en train de ralentir. Pour toutes les raisons qu'on a indiquées, l'immigration, la guerre commerciale.
Le monde entier, sauf les États-Unis qui se portent très bien. Les résultats économiques des États-Unis sont exceptionnels.
Je vais me lancer dans ce que les économistes ne devraient jamais faire dans une prévision. Mais je ne crois pas que la croissance américaine sera aussi brillante dans 6 mois qu'aujourd'hui.
Bon, on verra, on vérifiera. Emmanuel Macron fait le pari qu'en donnant plus aux actifs, aux riches, tout le monde finira par en profiter. Pour l'instant, c'est surtout quelques-uns qui en profitent. Quand est-ce que tout le monde aura l'impression d'en profiter?
Tout simplement lorsque on aura créé peut-être 500 000 emplois. Il y a eu une année où 2000 où la création d'emplois ont été très très vives en France. Donc c'est possible. Il y a que ça le créer. La seule chose qui compte, c'est un pays qui redonne finalement de la vivacité à son marché du travail, redonne de la confiance aux gens. L'emploi, c'est quand même ça le sujet. Et à ce moment-là, assez naturellement, les tensions sur la répartition de la richesse se font. Mais le préalable, c'est d'abord l'emploi. Et je dois dire que je suis légèrement soucieux sur ce qui peut se passer à la fin de l'année.
On entend votre inquiétude. Vous organisez donc les 18e rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où se retrouvent chaque année intellectuels, économistes, politiques. Cette année, il y aura Édouard Philippe, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Jacques Attali, le réalisateur Abderrahmane Sissoko notamment. Vous aimez à dire que c'est l'anti-Davos, non?
C'est l'anti-Davos, alors là il faut absolument que je le dise, sinon personne ne va me faire tirer l'oreille par mes petits camarades. C'est totalement ouvert, gratuit, il n'y a aucun problème.
Donc c'est l'anti-club fermé réservé aux...
C'est l'anti-club fermé, on attend, d'après ce que j'ai eu comme renseignement hier soir, on en est déjà à 3000 ou 4000 personnes qui sont inscrites. Je voudrais aussi que on l'inscrit bien dans la ville d'Aix, parce que bien au-delà de ma petite personne, il faut que cet événement, qui est quand même, je dois reconnaître, mon compte de modestie, mais assez top, il faut qu'il se pérennise. Oui, mon compte de modestie.
Si vous ne le dites pas, qui va le faire?
Oui, il y a un âge où si on ne dit pas du bien de soi-même, personne ne le fera.
Et dans le contexte actuel, Jean-Hervé Lorenzi, comment vous allez faire que ce soit pas trop sombre, trop catastrophique, pour que tout le monde se flingue pas à la fin?
Eh bien, personne va se flinguer parce qu'à la fin, nous faisons une déclaration. C'est notre engagement et ce sont des propositions et c'est ça qui nous permettra de sortir de somnambulisme.
Et c'est fini. Jean-Hervé Lorenzi était notre invité. Belle journée à vous.
Merci beaucoup, Léa Salamé. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes.